Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant l'importance de la prière. Nous arrivons à l'étude numéro 12 et le thème sera l'épée de la Sainte Parole, c'est la prière. Il est dit dans le livre des Juges, au chapitre 7, versets 1 à 7, que le lendemain matin, Jérubbaal, c'est-à-dire Gédéon, accompagné de tout le peuple, alla camper près de la frontière de Harod. Le camp de Madian était au nord, vers le coteau de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre les Madianites entre ses mains. Israël s'attribuerait la gloire qui m'appartient en disant, « Oh, c'est ma main qui m'a délivré. » Maintenant donc, fais publier aux oreilles du peuple cet avis. Que celui qui a peur et qui tremble s'en retourne et se retire de la montagne de Galaad. 22 000 hommes du peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre au bord de l'eau, et là je t'en ferai le triage. » Celui duquel je te dirai qu'il n'aille pas avec toi, celui-là n'ira point. Il fit donc descendre le peuple au bord de l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, quiconque lappera l'eau avec sa langue, comme font les chiens, tu le mettras à part, ainsi que tous ceux qui se courberont sur leurs genoux pour boire. Le nombre de ceux qui lapèrent l'eau avec leurs mains en la portant à leur bouche fut de 300 hommes. Mais tout le reste du peuple se courba sur ses genoux pour boire de l'eau. Alors l'Éternel dit à Gédéon, « Je vous donnerai la victoire par ces 300 hommes qui ont lapé l'eau. Et je livrerai les Madianites entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. » Le livre des Juges, chapitre 7, versets 1 à 7. Saül choisit 3 000 hommes d'Israël, 2 000 pour rester avec lui à Michmas et sur la montagne de Bethel, et 1 000 avec Jonathan à Gibea, en Benjamin. Quant au reste du peuple, il le renvoya, chacun dans sa tente. Jonathan avait battu la garnison des Philistins qui était à Gibea. Les Philistins la prirent, et Saül fit sonner de la trompette par tout le pays, en disant « Il faut que les Hébreux le sachent. » Tout Israël apprit donc que Saül avait battu la garnison des Philistins et qu'Israël s'était attiré les ressentiments des Philistins. Alors le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Cependant les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 30 000 chars, 6 000 cavaliers et une multitude aussi nombreuse que le sable sur le bord de la mer. Ils montèrent donc et campèrent à Michmas, à l'orient de Beth-Aven. Les Israélites, se voyant réduits à l'extrémité, car ils étaient serrés de très près, se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les forteresses et dans les citernes. Des Hébreux, passant le Jourdain, gagnèrent les pays de Gad et de Galaad. Cependant, Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui le suivait était rempli d'effroi. Or, dans tout le pays d'Israël, il n'y avait pas de forgerons, car les Philistins disaient « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances ». Et tous les Israélites devaient donc descendre chez les Philistins pour faire aiguiser chacun son soc, son hoyo, sa cognée ou sa bêche. Et quand le tranchant des socs, des hoyos, des fourches ou des cogniers s'ébréchait, ainsi que pour redresser les aiguillons, aussi le jour du combat, il n'y avait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouva que pour Saül et pour Jonathan, son fils. Un poste de Philistins vint donc occuper le défilé de Michmas. C'est écrit dans 1 Samuel, chapitre 13, versets 2 à 7, et les versets 19 à 23. Et il est dit dans Éphésiens, au chapitre 6, versets 17 à 18, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites-en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Éphésiens chapitre 6, versets 17 et 18. Il est important que nous puissions nous souvenir de ce verset d'Éphésiens 6, versets 17 à 18. Très important. Nous arrivons à la fin de nos méditations sur la prière. Il nous reste simplement quelques pensées à ajouter. Elles sont surtout liées au passage des Saintes Écritures citées tout à l'heure. Si nous résumons le contenu des chapitres 13 et 14 du premier livre de Samuel, la situation est celle-ci. Saül, qui représente officiellement le peuple, il est dans une position où la foi en Dieu est à son degré le plus bas. Le résultat est un état de crainte. On sent le peuple secoué par un tremblement et il existe une absence tragique de cohésion et d'unité. L'ennemi a donc l'ascendance. Le peuple est donc incapable d'agir. Pourquoi ? Mais à cause d'un tragique mouvement de l'ennemi qui lui a enlevé toutes les armes de guerre et les forges ont été détruites. Au sein d'une telle agitation, il se trouve un seul homme qui ait la foi en Dieu et sa foi le met en opposition positive contre les conditions dominantes. Jonathan croit encore profondément en Dieu et en conséquence, non seulement il dénonce l'état actuel des choses, mais il le répudie en s'opposant positivement et activement contre lui. C'est ainsi qu'il est devenu le petit instrument de Dieu pour triompher de la puissance de l'ennemi en un jour de déclin presque universel. Dieu lève un témoignage au sein de la faiblesse spirituelle et de la crainte générale. De tels exemples se retrouvent dans les Saintes Écritures et dans l'histoire de l'Église depuis les temps bibliques. Il y a donc deux faits qui sont significatives et dont nous devons spécialement tenir compte dans cette histoire. Le premier est la stratégie de l'ennemi. Cette stratégie signifie que le peuple de Dieu est en réalité défait avant même la bataille. Les armes avaient été confisquées et les moyens d'en produire lui avaient été enlevés et étaient détruits. C'était un mouvement astucieux, réellement l'une des ruses maîtresses de l'ennemi. Ne pouvons-nous pas lire dans cet incident l'histoire littérale du peuple de Dieu? Il y a là une indication de la manière dont l'ennemi du témoignage de Dieu essaye toujours d'agir. Et n'est-ce pas ce que nous voyons très largement aujourd'hui? Nous avons vu durant notre méditation que les armes du peuple de Dieu sont surtout la prière et la sainte parole. Si nous les considérons à cette lumière spéciale, il nous est aussitôt montré clairement que l'un des coups de maître de l'ennemi est de nous accaparer dans ce double sens. Il est des plus importants de nous souvenir que notre adversaire n'attend pas l'heure de la bataille pour mettre ses forces en mouvement, mais il est toujours à l'œuvre bien longtemps à l'avance. Il lui serait fatal, comme ce l'est pour nous, d'agir autrement. Il nous arrive donc si souvent de n'être pas équipés lorsque nous sommes en présence d'une situation, car notre équipement essentiel nous a été enlevé à l'avance. À cette heure imprévue, il n'y a plus aucune possibilité de prendre notre équipement et nous apprenons une leçon amère par notre impuissance au moment d'un grand besoin ou d'une possibilité. Il nous est donc demandé de maintenir une vie concentrée dans la prière et la sainte parole, alors que nous n'avons pas de demande ou d'appel particulier. Nous serons ainsi à notre place, spirituellement équipés, lorsque nous rencontrons un besoin spécial. Cet état non équipé représente un déshonneur spirituel et une perte de position devant Dieu. Avons-nous été frappés par le changement de titre donné au peuple de Dieu dans ces chapitres? Rappelez-vous, le peuple est appelé quelquefois les Hébreux, d'autres fois Israël. Et si nous regardons de plus près, nous verrons que l'Esprit du Seigneur nomme son peuple les Hébreux. Lorsqu'il est du côté des Philistins, il est Israël. Et lorsqu'il ne l'est pas, donc le peuple perd en quelque sorte la dignité de ce nom Israël qui est un prince avec Dieu. Et lorsqu'il est du côté des Philistins, je répète, donc, le peuple perd la dignité de ce nom Israël qui est un prince avec Dieu lorsqu'il est du côté des Philistins. Et lorsqu'il n'est plus de ce côté des Philistins, alors même qu'il reste dans un état de faiblesse et loin d'être ce que Dieu voudrait pour lui, eh bien le Seigneur, dans sa grâce, l'appelle encore et encore Israël. Mais les Philistins appellent toujours les hommes d'Israël les Hébreux. Et le Seigneur permet que ce titre leur reste lorsqu'ils sont entre les mains des Philistins. Leur dignité de prince avec Dieu est à ce moment-là perdue. qu'est-ce qui fait de nous des princes avec Dieu? Oui, réfléchissons. C'est uniquement notre vie de prière et notre vie dans la Sainte Parole. C'est cela. Nous perdons notre dignité, notre position, notre ascendance, si l'ennemi peut nous dérober de notre vie de prière et de notre vie dans la Sainte Parole. Cela n'est-il pas vrai dans notre expérience? Naturellement, c'est vrai. Cela nous a probablement été enseigné lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, mais dans ce domaine plus vaste de la guerre et du conflit spirituel qui concerne le témoignage tout entier du Seigneur à cette position avancée du peuple de Dieu où, en tant que chrétiens, nous nous éloignons des choses terrestres pour entrer dans les choses célestes comme membre du corps de Christ. Comme membre du corps de Christ, nous trouvons une activité spéciale et une détermination particulière de l'ennemi destinée à nous empêcher de prier et de nous donner à la Sainte Parole de Dieu. Donc, en luttant contre cette vie de prière et cette vie dans la Sainte Parole, en l'empêchant carrément, en l'entravant et en la détruisant, il démoralisera bientôt toute l'Église et ses membres spirituellement, et il les dérobera de leur ascendance. Que le Seigneur rende à nos cœurs le sentiment urgent de la nécessité de tenir ferme contre les embûches du diable. Car les embûches du diable ne sont pas dirigées uniquement pour s'opposer à la vie de prière que nous avons, mais pour nous empêcher d'avoir une vie de prière et une vie dans la Sainte Parole de Dieu toujours plus grande. Pardonnez cette répétition, nous sommes certains qu'elle est absolument nécessaire. Nous réalisons que si l'ennemi peut y arriver, nous n'aurons pas de vie de prière. Il se servira de tout ce qui est concevable, naturel ou surnaturel, pour empêcher notre vie de prière et notre vie dans la Sainte Parole de Dieu. Ce sont donc là les deux armes puissantes de notre guerre. Nous devons être sensibles et vigilants à l'égard de ces embûches et arriver à les prévenir. L'apôtre a dit, nous n'ignorons pas ses desseins, 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, et être conscient de ce que l'ennemi cherche à faire, c'est avoir gagné à moitié la bataille avant même de la commencer. Oh, il y a tellement de choses qui paraissent pour entraver la prière et la vie dans la Sainte Parole, et elle se présente d'une manière si naturelle. Oui, elles viennent de manière si simple et si ordinaire. Elles semblent être si naturelles. Simplement, ces choses qui arrivent naturellement et peut-être auxquelles nous pouvons nous attendre. Mais après quelques semaines passées ainsi, eh bien, nous découvrons que notre vie de prière a, hélas, disparu. Comment a-t-elle disparu? L'ennemi n'a fait aucune démonstration. Il ne nous a pas prévenu qu'il allait détruire notre vie de prière par ceci et cela. Il n'a pas exposé ses moyens. Mais la chose est arrivée. Donc, veillez pour la prière, car veiller et prier dans ce sens c'est de veiller afin de pouvoir prier, veiller contre les choses qui nous empêcheraient de prier. Oui, chers amis, veillez pour la prière. Et il doit y avoir en nous un de peur que, oui, de peur que Satan n'obtienne un avantage. Je répète, de peur que Satan puisse obtenir un avantage. Et nous le voyons, il doit y avoir de notre part une opposition, il doit y avoir une résistance. Il nous faut résister aux embûches du diable. Et nous devrons vérifier à nouveau la question des incidents ordinaires, naturels. Par exemple, voir si, après tout, dans toutes ces choses apparemment très ordinaires, il n'y aurait pas une arme, une embûche très subtile de l'ennemi. Quelle est la chose qui entrave la vie nécessaire de la prière, la vie essentielle de la prière? Demandons-nous, oui, demandons-nous, si après tout, c'est une chose au sujet de laquelle il nous faut prendre une attitude, une chose à interroger. Nous devons veiller avec beaucoup plus de vigilance contre les mouvements stratégiques de l'ennemi qui se font dans cette direction, de peur que nos armes ne nous soient volées ou qu'elles ne soient émoussées. Oui, c'est notre note qui doit retenir de plus en plus, et j'en suis certain. Veillons donc contre les embûches de l'ennemi qui sont dirigées pour nous enlever nos armes de guerre, notre vie de prière et notre vie dans la Sainte Parole, pour nous empêcher de conserver ces armes de guerre. Ces deux choses sont donc unies par le Saint-Esprit. C'est l'épée de l'Esprit qui est la Sainte Parole de Dieu en priant, selon Éphésiens chapitre 6, versets 17 et 18. Le Saint-Esprit a uni étroitement ces deux choses. Il aurait pu mettre l'épée au commencement ou quelque part ailleurs. Nous pourrions penser que, en regardant le soldat romain tel qu'il est là, l'apôtre voit la ceinture et l'épée près de la ceinture et qu'il dira: ayons la ceinture de la vérité et l'épée de l'esprit. Mais non, il prend la ceinture à part de l'épée et continue par les autres parties de la panoplie qui sont protectrices et défensives. Puis il relie les deux parties offensives à la fin, la parole et la prière. La parole et la prière. Elles sont donc toutes deux indispensables pour une vie qui non seulement pourra résister et avoir la défensive, mais une vie de victoire actuelle triomphante, progressivement agressive. Et c'est là ce qui ressort de ce 14e chapitre du premier livre de Samuel. Jonathan avait une épée, et il monta sur ses mains et ses pieds. Il y avait là l'activité de la foi avec les armes de la guerre de la part de Jonathan. Nous avons rappelé un peu plus haut, tout à l'heure, que c'est une bénédiction suprême que de pouvoir prier en appuyant notre prière par la Sainte Parole de Dieu et en pouvant dire au Seigneur notre façon, sa Sainte Parole, et de rappeler ensuite au Seigneur sa parole. Ça, c'est donc en tout une grande force que de pouvoir faire cela. Je voudrais répéter juste cela. Nous avons rappelé tout à l'heure que c'est une bénédiction suprême que de pouvoir prier en appuyant notre prière par la sainte parole de Dieu et en pouvant dire au Seigneur, nous faisons tout selon ta sainte parole. Et de rappeler ensuite au Seigneur sa parole. Donc tout cela, c'est une grande force que de pouvoir faire ainsi. Prenons le psaume 119. Psaume 119. Prenons-le comme une illustration. Et rappelons combien fréquemment le psalmiste emploie ces mots « Vivifie-moi selon ta parole. Fortifie-moi selon ta parole. » Continuant ensuite à répondre par la sainte parole à ce qui correspond à la demande. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à nos corps mortels par son Saint-Esprit qui habite en vous. Romains 8, verset 11. C'est merveilleux, cette parole de Romains 8, verset 11, et ça vaut la peine de la répéter. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, en nous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts rendra aussi la vie à nos corps, à vos corps mortels, par son Esprit Saint qui habite en vous. Ça, c'est la sainte parole de Dieu. C'est une grande chose que d'avoir la sainte parole de Dieu avec nous dans la prière et de pouvoir l'apporter au Seigneur. Cela nous donne une attitude forte. C'est une grande chose que de pouvoir répondre à l'ennemi par la sainte parole de Dieu. Le Seigneur lui-même alla dans le désert et il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Comment a-t-il répondu au diable? Simplement par la sainte parole de Dieu. La sainte parole de Dieu était son arme, et pour finir avec cette arme, il triompha. Oui, il l'a vaincu. Ce n'est pas qu'il ait rencontré l'ennemi objectivement et qu'il lui ait simplement cité à voix haute des passages des Saintes Écritures. Cela peut être nécessaire quelquefois. C'est peut-être un bon exercice que de rencontrer l'ennemi par une déclaration haute de ce que Dieu a déclaré, mais bien aimé, posséder la sainte parole de Dieu dans notre cœur, dans notre esprit, de sorte que dans tous les moments de tentation et de difficulté et d'assaut spirituel intérieur, nous puissions nous appuyer sur les promesses. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur elles si nous ne les connaissons pas. Notre position est très fortifiée. Lorsque nous avons la sainte parole de Dieu sous nos pieds, une vie dans la sainte parole est très nécessaire pour la prière efficace. Oui, et ces deux choses doivent donc être ensemble à la base d'une victoire positive dans notre lutte contre l'ennemi. Il y a une autre chose qui ressort de ce passage. C'est une petite compagnie qui est dans cette position. Jonathan dit, rien n'empêche l'Éternel de donner la victoire aux petits nombres comme aux grands. 1 Samuel chapitre 14 verset 6. Ça, c'est une compagnie comparativement petite, mais elle représente pour le Seigneur la clé de toute la situation. Elle est unie à tous les autres dans une position relative, et le Seigneur sait que les autres n'oseraient pas avancer sans elle. Le Seigneur doit donc avoir ces quelques-uns pour soutenir les autres. Et pour finir, les autres entreront dans la bénédiction que cette petite compagnie aura assurée pour eux. Et c'est là ce que nous avons appelé si souvent la compagnie des vainqueurs. La compagnie des vainqueurs. Le petit groupe, pour parler de manière comparative, qui garde sa base et maintient sa vie de prière et sa vie dans la Sainte Parole, ça c'est donc l'espérance du peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu n'a pas d'espérance sans ces quelques-uns-là. Ils sont donc la clé du Seigneur pour la situation plus vaste. Le Seigneur doit les avoir pour les autres. Et c'est encore Benjamin, le lien entre les frères éloignés et distants, et celui qui est sur le trône. C'est le petit qui est l'instrument par lequel tous seront amenés dans la pleine bénédiction. C'est donc une position privilégiée, bien qu'elle soit difficile à occuper, c'est une position qui nous coûte. Elle est donc chargée de beaucoup de souffrances et de difficultés. Et cependant, c'est une position privilégiée à tenir. Je dois me le répéter davantage à moi-même, et vous devez vous rappeler davantage le privilège de pouvoir être un vainqueur. Je crains que nous soyons trop impressionnés par la souffrance, le prix qui est à payer, les difficultés, mais c'est un privilège que d'être dans une position qui aura une grande valeur pour le Seigneur dans un grand nombre d'autres de ses enfants qui, peut-être, ne sont pas dans cette position pour le moment. Pour y amener les autres, le Seigneur ne le fait pas. Il ne peut pas le faire directement. Il pourrait, bien sûr. Il n'a pas besoin de nous. Mais il le fait par le service de ceux qui sont dans cette communion plus intime avec lui et qui représentent une victoire puissante sur la stratégie du diable. C'est une position relative et privilégiée. C'est la raison pour laquelle ceux qui suivent le Seigneur dans cette voie deviennent l'objet central de la haine et de la ruse du diable, et pour laquelle ils doivent soutenir une telle bataille afin de maintenir la position à laquelle le Seigneur les a appelés. Ils ont tant de choses à supporter, tout cela à cause de la responsabilité qu'ils ont en raison du lien, de la valeur du lien qui existe entre eux et peut-être des multitudes d'autres. Ainsi, Jonathan et son armurier, et c'est la partie de l'histoire que j'aime tellement, ont un accord secret, en quelque sorte. Il y avait ces deux dents massives de rochers de chaque côté, et les Philistins occupaient en haut la place d'avantage. Leur accord secret était celui-ci: s'ils nous disent qu'ils descendront à nous, très bien, nous les attendrons, Mais s'ils nous disent de monter jusqu'à eux, nous saurons alors que l'Éternel les a livrés entre nos mains. Nous aurions pensé qu'ils auraient dit le contraire. C'est clair. Oui, c'est absolument clair. Il semble que tout l'avantage aurait été de l'autre côté, évidemment, et que la tâche aurait été comparativement plus facile. Mais croire que le fait d'être appelé à escalader ces rochers difficiles et défenseurs est le signe même de la victoire du Seigneur. Oui, cela rend notre situation très forte, n'est-il pas vrai? Et ils dirent, montez jusqu'à nous. Et Jonathan déclara, l'Éternel les a livrés entre les mains d'Israël. 1 Samuel, chapitre 14, versets 12 et 13. Et ils firent chaque pas sur leurs mains et sur leurs pieds, une montée difficile qui résiste, réellement difficile. Et ils ont dit, la victoire est à nous. Ils grimpèrent donc dans une victoire et non pas pour une victoire. Ils avaient leur arme et ils avaient foi en Dieu et ils se sont tenus dans la victoire et ils ont avancé dans cette victoire. Et Jonathan les abattait. Ils tombaient devant Jonathan et son écuyer. Il les achevait. Alors l'Éternel envoya un tremblement de terre, et le Seigneur coopéra lorsque la foi est allée aussi loin que possible, et il envoya la consternation parmi les Philistins. Alors les pauvres faibles Hébreux sont venus pour gagner leur chance, et ils ont pu se tourner sur les Philistins. Et ce n'est pas très noble, d'accord, ni très honorable, mais Jonathan a été l'instrument qui contribua à les faire passer de leur faiblesse dans la force, de leur confusion dans un témoignage clair, et de la place où la clarté de leur témoignage était perdue dans une place où ils peuvent garder leur attitude. Et beaucoup de chrétiens ont précisément besoin de l'activité d'un Jonathan pour les ramener dans une attitude claire. Ils y arriveront si le Seigneur a un instrument assez fort pour rencontrer l'ennemi à leur place. Et ils n'y arriveront pas avant que quelqu'un commence à faire tomber les Philistins pour eux. Serons-nous, chers amis, un de ceux-là? Tout cela est très beau. Il faut terminer. Mais j'aimerais ajouter quelques pensées à l'égard de la manière dont le Seigneur éprouve pour obtenir cela. La nécessité de réduire pour avoir ce qui est efficace. Jonathan et son armurier et une petite compagnie représentent un peuple éprouvé et criblé. Ils ont été éprouvés sur cette question de la foi dans le Seigneur et ils ont été criblés jusqu'à terre, là où la prière et la sainte parole sont leur vie même. Et c'est ce que représentait aussi la compagnie de Gédéon, une compagnie éprouvée, amenée dans une position de foi absolue en Dieu, car c'était là ce que Dieu désirait, car Israël s'attribuerait la gloire qui m'appartient, en disant, c'est ma main qui m'a délivré, juge chapitre 7, verset 2. Israël devait donc être à la place où Dieu est son seul espoir. Et la foi en Dieu était donc la base sur laquelle il se tenait. Alors chaque homme a dû mettre son épée à son côté et se tenir à sa place. Nous avons une image très bonne dans les 300 de Gédéon, d'une compagnie absolument éprouvée, demeurant dans la prière et dans la sainte parole de Dieu, l'épée de l'Éternel, le Seigneur de la sainte parole. Juges chapitre 7, verset 20. Le Seigneur veilla donc à ce que tous ceux qui avaient le cœur troublé retournent chez eux, tout simplement. Un cœur troublé ne saurait être très utile. La foi est nécessaire ici. Un cœur qui serait partagé, cela est un obstacle. Cela disqualifie. Un cœur craintif, ce fut la première épreuve, et une grande partie des hommes s'en retournèrent, rappelez-vous, à la maison, parce qu'ils avaient un cœur craintif. Un cœur divisé, cela fut la seconde épreuve. Ceux qui se courbèrent sur leurs mains et leurs genoux pour boire l'eau montrèrent qu'ils n'étaient pas entièrement prêts pour cette tâche. Ceux qui se sont tenus debout et qui ont la paix dans leurs mains étaient décidés. Ils se sont tenus debout sur leurs pieds. Ils n'ont pas bu que parce que cela leur était nécessaire. Non, non, ceux qui ont la paix n'avaient pas un cœur divisé. Ils étaient entièrement donnés à leur devoir, car un cœur divisé disqualifie. Le Seigneur veille donc à ce que les cœurs divisés soient séparés, et il a pour finir sa compagnie. Ce sont ceux qui sont unis à lui dans la foi du Fils de Dieu, qui ont une vie de communion profonde avec lui, avec Jésus, dans la prière et dans la sainte parole. Ils seront donc toujours une compagnie éprouvée, et nous ne devons pas nous décourager ni penser que ce soit une chose étrange lorsque le Seigneur commence à séparer, de sorte que nombreux sont ceux qui reculent et rentrent chez eux. Le Seigneur doit le faire afin d'avoir un résultat efficace. Il doit donc éprouver lui-même. Lorsqu'il était ici-bas sur notre terre, il nous a donné dans son enseignement personnel bien des exemples à cet égard-là. Il appelle et les réactions à son appel seront « Seigneur, permets que j'aille auparavant ensevelir mon père » Saint Matthieu chapitre 9 verset 21. Et ensuite, d'autres intérêts. Oh, sache que j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Saint Luc chapitre 14 verset 19. Oh, moi je viens de me marier, c'est impossible. Saint Luc chapitre 14 verset 20. Et puis moi encore, j'ai acheté une terre et je suis bien forcé d'aller la voir. Saint Luc 14, verset 18. Voyez-vous, toutes ces excuses, c'est avoir un cœur divisé. Nous avons alors ces propres paroles de Jésus qui nous dit « Si quelqu'un vient à moi et ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Saint Luc 14, verset 26. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Saint Luc 14, verset 27. Ce n'est certainement pas un cœur craintif. C'est là ce que le Seigneur demande. Et par les 300, il livre tout simplement les Madianites entre nos mains. Et par les 300, il sauve Israël. Ils sont devenus le salut des autres. Ils sont devenus le salut pour les autres. Chers amis, nous allons terminer par la prière. Ceux qui ont une famille peuvent répéter avec moi cette prière que le Seigneur me donne pour eux. Et c'est une prière que vous pouvez répéter après moi si vous voulez. Père Céleste, ma conscience m'accuse. Je sens en moi les nombreuses critiques que je me décerne. Je ne cesse de me reprocher que j'ai manqué d'attention à certaines personnes, que je me suis énervé devant mes enfants, que j'ai raconté des choses insensées et que j'ai employé des tournures blessantes. Impossible de revenir en arrière, mais je ne puis pas me libérer non plus de mes sentiments de culpabilité. Et je les tends à toi. Je renonce à m'accuser moi-même. Je te tends tout simplement ce qui est en moi. Je te laisse seul juge de tout cela. Mais je suis sûr que tu acceptes tout en moi, même ce qui n'était pas tellement bon, ce qui a fait de moi, hélas, un coupable. Je te tends mon cœur avec tout ce qui remonte en moi. Je voudrais ne rien te cacher, car devant toi tout peut être là, sous ton regard aimant. Tout le négatif en moi perd sa force. Il est encore présent, mais il a perdu le contrôle sur moi. Je sens que ma culpabilité ne me sépare plus de toi, mais te désigne toi-même et ta grâce. Contempler ainsi ta miséricorde me délivre d'être obnubulé par mes sentiments de culpabilité. Je cesse de me condamner, car tu me condamnes pas, mais tu m'acceptes sans condition. Je redécouvre ce que Saint Jean a écrit dans sa première lettre, première épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 20. Même si notre cœur nous condamne, Dieu, alléluia, est plus grand que notre cœur. Et il sait tout. Amen. Amen. Chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et demain matin, Dieu voulant, le Seigneur m'a donné quelque chose encore pour terminer cette série d'importants. Alors, à demain matin, Dieu voulant, c'est lui qui est le maître de notre vie. car à 89 ans, chaque jour peut être le dernier. Mais tout est entre les mains du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous. Rappelez-vous, il vous aime tendrement. C'est un Père aimant. À demain matin. Au revoir, mes très chers amis.